Oui, bonjour, chers amis de la Vasse, j'y suis. C'était pour revenir sur les propos de Martine Aubry là, au sujet de Bernard Tapie là, ce matin. Quand elle dit qu'il lui restera 20 millions d'euros, c'est-à-dire 200 ans de SMIC. Alors, soit Martine Aubry n'est pas très bonne en calcul, ça j'en doute un peu quand même, ou alors elle ne connaît pas le SMIC. Ça serait surprenant. Parce qu'en fait, ça ne fait pas 200 ans, ça fait 1600 ans. 16 siècles de SMIC pour un SMICard. C'est pas mal, hein. Et bon, cela dit, moi je suis prêt à voter pour Martine, hein. Si elle fait un SMIC à 100 000 euros par an, là, je vote de suite pour Martine. Voilà, c'était Jean-Marie de Pau. Alors, merci.
Oui, ce qui choque dans cette histoire en Corse, là, c'est qu'un acteur, un simple acteur, puisse s'acheter une villa, une piscine. Nous, on dit d'économiser l'eau, puis lui, ça permet d'avoir des piscines pleines d'eau, inoccupées en plus. Et par rapport à cette pauvre femme, là, qui s'est suicidée hier, qui s'est jetée du troisième étage, parce qu'on allait l'expulser de sa maison, avec ses deux enfants, oui, c'est dégueulasse, quoi. Il y a les très pauvres et les très riches maintenant, puis ça, c'est de plus en plus fréquent, quoi. C'est honteux. C'est vrai que bientôt c'est l'hiver, ils accélèrent les expulsions. Vite, faut expulser, hein. Faut que ça bouge, là, bon, faut que ça pète, là. Fin septembre, il y aura une manif contre la précarité, justement. J'espère que tu seras là, Daniel.
Bonjour, c'est Boris. Bonjour à tous les AMG du pays transfrontalier de Longwy. C'est la rentrée du repère là-bas, si j'y suis, qui se retrouvera au Gamin de Paris pour ce premier vendredi du mois de septembre. Donc, c'est le vendredi 5 septembre. Donc, au Gamin de Paris, à partir de 19h, le Gamin de Paris, c'est Avenue de la Paix. Venez nous retrouver. À bientôt.
Oui, bonsoir. François-Julien, là, en Vendée, bien fermé. Dans cette ambiance molle, frileuse, et néanmoins bien, comment dire, fricarde et toujours gênante, à gauche comme à droite. Bravo pour cette rencontre avec l'Entarteur. Mais pour certains, la pâtisserie est imméritée. Il faudrait des bouses. Bien à vous, mon cher, et continuez. Bon courage et toutes mes amitiés.
Oui, bonjour, là-bas, si j'y suis, je viens d'écouter l'émission avec Noël Godin. Et je vous permets de signaler son site internet que j'ai consulté cet été. C'est www.gloupgloup.be. J'ai vu un article sur Philippe Val qui se fait tailler un beau costume et des images en partage de Doc Gynéco. Voilà, ben je vous invite à le consulter. Ben merci beaucoup pour vos émissions, au revoir. Bisous.
Bonjour à l'équipe de là-bas si j'y suis et ravi de vous retrouver. C'était pour indiquer qu'à Béziers, on continue à se réunir. Au Cafarnarum, la péniche sur le canal du Midi, tous les premiers mercredis du mois à 18h30. Donc cette prochaine réunion, c'est le mercredi 3. Merci et puis bonne route à tous.
Bonjour, c'est Charles Lavia. En écoutant la radio américaine ces derniers jours, la chaîne Democracy Now, que je conseille vivement, j'apprends que des manifestants et des journalistes ont été arrêtés lors des conventions des partis politiques. Arrêtés, les uns jouant le rôle de citoyens soucieux d'un meilleur monde. Arrêtés, les autres, les journalistes, en faisant leur travail, refusant de montrer une vision idyllique de la Convention nationale du Parti républicain. Françaises et Français, citoyens et citoyennes du monde, je vous appelle à exprimer votre solidarité avec les citoyens et journalistes américains arrêtés à la plus grande vigilance pour ne pas sombrer davantage dans la néo-démocratie ambiante. Daniel Mermet, je vous appelle à raconter ce qui serait certainement une histoire intéressante à raconter avant que ce ne soit votre tour d'être arrêté. À bientôt.
Oui, en effet, merci pour ce message, cher AMG, auditeur modeste et génial. On a appris effectivement qu'en marge de la convention républicaine à Saint-Paul, Minnesota, il y a eu des manifestations importantes, entre 5 000 et 20 000 manifestants, selon les sources, manifestants pacifistes, pour demander le retrait immédiat des troupes américaines en Irak et aussi en Afghanistan. Et au cours de ces manifestations, il y a un certain nombre de journalistes, 4-5, qui ont été effectivement arrêtés, dont Amy Goodman, qui est l'animatrice de la radio et du site Democracy Now. Alors, je crois que Amy Goodman, elle a été relâchée, libérée, mais le sort des journalistes n'est pas encore réglé, les autres journalistes. Voilà, on a reçu un mail d'un auditeur qui dit « Je n'ose pas imaginer la manière dont serait relayé les mêmes événements s'ils avaient lieu au Venezuela ou en Russie, mais ils n'ont pas été relayés du tout, très très peu, même si, il faut bien reconnaître, il faut souligner que Reporters sans frontières a fait un communiqué. Merci pour tous ces messages, chers amis, auditeurs géniaux. Vous avez été nombreux à applaudir notre entretien hier avec Noël Godin. L'entarteur, je cherche le site parce qu'il m'a dit il faut absolument que tu... Ah, voilà. Alors c'est www.gloupgloup.be pour communiquer avec ces oiseaux-là. www.gloupgloup.be. Alors on va rester un petit peu dans le même sillage aujourd'hui avec un événement. Alors nous on est en avant-première. Vous n'avez plus que une semaine à attendre pour feuilleter un nouveau journal qui va s'appeler Ciné Hebdo. Ciné, oui, vous savez, sauf si vous êtes un extraterrestre qui vient d'arriver, vous connaissez l'histoire qui a enflammé notre été, l'affaire Val Ciné, le conflit au sein de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Donc la réaction du dessinateur Ciné qui a été viré de Charlie Hebdo, eh ben, au lieu de se morfondre, ça a été de « on va créer un journal ». Et c'est ce qu'ils ont fait, ça fait 2 mois qu'ils travaillent à la création de ce journal. Et hier, eh bien, il y avait une petite fête pour la présentation du numéro 0. Et nous y étions, et nous allons y être ensemble jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, bah écoute, j'étais très content de te retrouver après 2 mois d'absence. C'est un petit pote hyper intéressant entre Antoine Chao et son insurrection 68arde. Et ce reportage sur l'Afghanistan assez court, mais fort instructif pour une fois quelqu'un dit que l'insurrection n'est pas forcément talibane ou terroriste, mais afghane. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand on est envahi par l'Occident en étant afghan, on peut se révolter et ne pas accepter ce genre de choses. D'ailleurs, dans Le Canard, le dernier canard enchaîné, une réflexion du général Georges Lain, dit Surcouf, enfin, préposé Surcouf, patron des armées françaises. Après un récent raid de l'aviation US dans l'ouest du pays, qui, selon le gouvernement de Kaboul, a provoqué la mort de 90 Afghans, de tous âges, a suscité cette réaction du général Georges Lain, patron des armées françaises. Une bavure épouvantable, horrible, qui va dans les intérêts de la coalition. Ce genre de bavure nourrit les rangs des talibans. Et voilà, c'est pas fini. C'est le gros merdier. Et M. Sarkozy continue à envoyer des soldats. C'est pas prêt de s'arranger, à mon avis. À moins qu'il retire tout le monde. Merci pour tes émissions. À très bientôt. Bertrand Dourville, ébéniste à Bordeaux, qui a bien du mal à survivre d'ailleurs en ce moment. Merci beaucoup. Au revoir.
AMG du Pas-de-Calais, rendez-vous ce jeudi 4 septembre à partir de 18h30 au repère chez Tartous et compagnie de Monchy-Breton. Monchy-Breton est un petit village proche de Saint-Paul-sur-Ternoise. Nous serons contents de nous retrouver. Les sujets de discussion, bien sûr, ne manqueront pas. Et surtout, restons vigilants.
Oui, bonjour à toute l'équipe là-bas, si je suis content de vous retrouver en cette rentrée et en forme en plus. C'est Serge de Crémieux. C'était pour rappeler que donc, eh ben nous, on a notre rentrée aussi pour les repères. Et c'est ce vendredi, donc 5 septembre, à 19h, au Mona Lisa, toujours place de la Nation, face de la mairie, à Crémieux. Voilà. À bientôt à tous. Salut.
Oui, Daniel, bonjour. Je viens d'écouter l'émission avec notre ami Noël Godin, l'entarteur. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Et je voulais donner rendez-vous à tous nos amis de chez Gloop Gloop et à tous nos amis grolandais au festival de Quin à Groland, qui est à partir du 19 jusqu'au 21 septembre à Quin Plage. Voilà. Donc, je vous attends tous. À bientôt.
Je me souviens que vous étiez venu décorer l'école des arts appliqués.
Ah ouais, moi aussi, je me souviens de ça. Quand
moi, j'étais élève à l'école des arts appliqués. Ah ouais. Et vous aviez décoré un réfectoire, le réfectoire de l'école. Et c'était une grande bite qui faisait tout le tour du réfectoire. C'était un grand réfectoire. Il y avait une paire de couilles qui commençait à gauche. Ça faisait tout le tour. Il y avait le gland qui finissait à droite de la porte. C'était ciné.
C'est facile.
Chers auditeurs, ce que vous venez d'entendre est strictement confidentiel. Donc, c'est une note signée de ciné lui-même qui dit « Attention, ces numéros zéro sont destinés à être épluchés, commentés, applaudis, mais en aucun cas ne doivent sortir de cette putain de maison. Il en cuira au petit malin qui enfreindra cet ordre. Tenez le vœu pour dit, le gérant ciné. » Alors bon, vous en parlez à personne.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chaoulabas. J'y suis. Ciné Hebdo déboule le mercredi 10 septembre dans une semaine. Aujourd'hui, en avant-première, Ciné Hebdo. Voilà, alors ça c'est quand même... Là, ami auditeur, vous assistez à un moment historique. On espère que c'est... De toute façon, c'est historique. Hein, quoi qu'il arrive. C'est peut-être le dernier. En tous les cas, c'est le premier. Et alors, c'est Ciné Hebdo. Donc voilà, c'est le numéro 0 de Ciné Hebdo. Et on est tout de suite stupéfait par les signatures. On va tout de suite aller sur les signatures, avant de le contenu. On voit Guy Bedos, on voit Sylvie Caster, on voit Bruno Gassio, Michel Onfray, Jacques Berroyer, Raoul Weinegem, Denis Robert, Gudule, Roland Agré, c'est incroyable, Didier Porte, Gérard Filoche, Delphèle Deton, Arthur, Frédéric Bonneau, ami auditeur, Michel Warchavski de Jérusalem, Maurice Rachefus, André Langanet, Étienne Delserre, Normand Bayarjon, Gustave Massia, Bouixou, Jean-Pierre, Piquet-Boisson, ça je connais pas, Isabelle Alonso, Noël Godin, l'entarteur, Dror, Bernard Gasco, et ça fait quand même du beau monde. Et puis, un dessin de Tardy pour finir. Ils vont vraiment écrire toutes les semaines, ces gars-là?
Ah, presque tous, oui, presque tous.
Ils vont tenir, parce que ça, c'est le numéro zéro, ils se sont dépassés.
Il y a Bédos qui m'a dit tous les 15 jours. Oui. Tardy, par exemple, la quatrième, là, enfin la dernière, ce sera un dessinateur par semaine. Ça va changer. Par exemple, le numéro 2, ce sera Villemain.
Ah, Villemain, bah oui, c'est, voilà.
Il vient de partir.
Ouais. Alors, Catherine Sinet. On a compris, Catherine Sinet, ça ressemble beaucoup quand même à Sinet, il faut bien dire les choses. Vous êtes l'épouse du fameux antisémite Kakoshim, le vieux dégoûtant. C'est le vieux dégueulasse, ça y est, on l'a trouvé. C'est le retour du vieux dégueulasse.
Je suis contente de le partager un peu.
Oui,
ça va me faire des vacances.
Non, mais c'est vous le rédacteur-chef de cette histoire. C'est quand même une responsabilité assez lourde. Comment ça s'est passé, cette histoire?
Alors, comment ça s'est passé? Je peux pas vous le dire. En 48 heures, on a décidé de le faire. On s'est mis au téléphone. On a appelé quelques copains, mais il y en a beaucoup qu'on n'avait jamais vu là-dedans. Et on les a appelés. Il n'y en a pas un qui a dit non. C'est un. C'est tout. Donc, à partir de là, voilà, les papiers sont entrés. On a appelé les dessinateurs. Et tout le monde, absolument tout le monde, a dit oui. Mais sans hésitation, sans demander s'ils allaient être payés, rien.
Alors, il y a quand même une... Quand on est rédac-chef, il y a une ligne éditoriale. C'est quoi la ligne?
On n'a pas appelé n'importe qui non plus, attention. Si vous voulez, en gros, sur 60 personnes que j'ai appelées, j'en ai pas appelé 70, les 64, 65 sont là. Alors après, ils vont se greffer, j'espère, des nouveaux talents.
Quand on fait un journal, il faut des sous. D'où viennent les sous? D'où vient l'argent?
Les sous, il n'en faut pas tellement. Parce que l'imprimeur nous fait crédit, les NPP vont donner de l'argent dès que les ventes sont parties. Et puis l'argent, ben, il vient tout simplement de notre assurance vie. On a cassé l'assurance vie et puis voilà, on a mis les sous dedans.
Ah ouais. Il n'y a pas de financier, il n'y a pas de...
Pas des miens, il n'y a pas de financier, il n'y a personne. On a fait un appel à donation qui a commencé hier soir. Ça a l'air de rentrer. Et puis voilà, c'est parti.
Ouais, ouais. C'est pas la première fois que Ciné se lance dans cette aventure. Non. Je me souviens de Ciné Massacre.
Mais en 62, et là je ne le connaissais pas encore. Hein. Ouais. Et en 68, il a fait l'enragé.
Alors, c'est un journal qui se fait contre Charlie, ou on ne parle plus du tout de Charlie Hebdo?
À part un mot sur Charlie, sur Philippe Val et compagnie. Terminé pour nous. D'ailleurs, je ne sais même plus que ça a existé, moi, personnellement. Ça fait 3 semaines que je les ai zappés de ma tête.
Voilà. Voilà l'ambiance hier, lors de la... Bah, la parution de ce numéro zéro, c'est un numéro qui sera pas, en principe, dans le commerce, mais tout le monde était là. Alors, tous ces auteurs, ces journalistes, ces dessinateurs, il y avait Tardy, Villemain, Ronald Searle n'était pas là, mais c'est un très, très grand dessinateur qui a de la bouteille. Il y a Rémi Malingret, j'en cite quelques-uns au hasard, Philippe Geluc, Faujour, Étienne Delserre, un très grand dessinateur, Carali, Aurel, excellent, et d'autres que je connais, j'avoue que je ne connais pas ou moins bien, et puis ben, j'ai cité un certain nombre d'auteurs qui sont présents dans ce numéro zéro. On a vu qu'il y a une variété d'auteurs. Alors, est-ce que ça va tenir? C'est ce qu'on souhaite tous, parce que, au moins pour une raison, c'est que créer un journal aujourd'hui papier, parce qu'il n'est pas encore sur le net, c'est un exploit et un défi incroyable, et créer un hebdo satirique, ça aussi c'est un défi et une ambition suffisamment don quichotesque pour qu'on passe cette heure avec tout le monde, et bien évidemment avec Ciné. Alors l'histoire, vous la connaissez, ça a agité tout l'été nos journaux, nos têtes, nos discussions, nos engueulades, et beaucoup de un phénomène, on ne peut pas parler d'un phénomène quand même, venu d'Internet à travers les messages. Ça a été un festival extraordinaire de mauvaise foi, de et de duperie et de tromperie. Alors on verra les résultats. On en reparlera peut-être plus en longueur dans une prochaine émission. On essaiera de décortiquer ce qui s'est passé, parce que évidemment l'histoire n'est pas terminée. Ceux qui disent mais tournons la page, c'est ceux qui évidemment se sont trompés de camp, parce que très franchement il y a deux camps qui se sont définis. Et il y en a un qui est franchement beaucoup plus gai que l'autre, et c'est avec celui-là que nous passons cette heure ensemble jusqu'à 16h sur France Inter. C'est la base où j'y suis.
Nous avons voulu faire en sorte que la jeunesse soit informée, que les petits-enfants dans les écoles aient une chanson à chanter, comme jadis on chantait Malbrook, Monsieur Malbrook est mort. Nous avons voulu qu'un hymne contre Ciné soit fait. Oui, spécialement, nous avons fait une complainte. Nous allons chanter une complainte, la complainte de l'affreux Ciné, pour qu'on sache bien quel mépris on doit accorder aux écrits, aux dires et aux faits et gestes de cet ignoble individu qu'est Ciné. Écoutez-la. Complainte d'un non moins triste individu qui de la profession d'artiste a déshonoré la vertu. Si n'est que ce nom qui évoque et l'opprobre et l'ignominie et le scandale et l'équivoque à jamais par tous soit maudit. La morale est assassinée par l'horrible, l'affreux Ciné. Car Ciné doué par la nature d'un coup de crayon fort adroit, vicieusement défigure autour de lui tout ce qu'il voit. Voyez donc les recueils infâmes où ses dessins sont publiés. Le père, l'enfant et la femme y sont bafoués et piétinés. La famille est assassinée par l'horrible, l'affreux Ciné. Non content de salir l'image de nos plus belles institutions, les les défilés, les patronages, la patrie et la religion. Ils traînent dans la flétrissure les magistrats, les généraux, barbouillant ces caricatures aux couleurs de notre drapeau. La nation est assassinée par l'horrible, l'affreux ciné. Un jour la colère divine punira sans doute à grands coups, de fourches plus bas que le cou. Ciné, tout ce qu'il dessine, les gribouillages répugnants de ce scélérat, ce sans cœur, dans la marmite de Satan, seront brûlés avec l'auteur. Le monde sera libéré de l'horrible, oui, de l'horrible. Le monde sera libéré de l'horrible, l'affreux ciné.
Bob, ciné. Et c'est drôle. La dernière fois que je vous ai vu, c'était à une réunion de la Grosse Bertha, quand la création de la Grosse Bertha. Quelle aventure, non?
On pouvait pas se douter que ça allait se terminer comme ça, là.
Oh, c'est terminé ou commencé?
Ah ouais, la mienne commence, mais j'espère que ça se termine pour l'autre.
Ah, on vient de nous dire que ça ne se faisait pas contre Charlie. On parlait du tout de Charlie.
Non, d'ailleurs, on doit mettre un euro dans la tirelire à chaque fois qu'on dit un gros mot.
Et c'est quoi un gros mot? C'est Charlie.
Charlie, et puis son patron. Enfin, l'usurpateur qui se prétend patron de Charlie maintenant.
Oui, oui. Comment expliquer quand même ce gras de marée de merde qu'ils ont pris dans la gueule?
Je crois que tout le monde en a marre. C'est incroyable, j'ai catalysé un truc au moment précis où il fallait. Les gens en ont marre, mais de Sarko, c'est pas seulement de ça. Ça dépasse nettement les deux protagonistes principaux. Ils en ont tous marre, ils ont envie d'un souffle de liberté. On a l'impression d'être coincé de toutes parts. On n'a plus le droit de se moquer des musulmans, des juifs, il n'y a que les turtons sur lesquels on peut encore un peu taper, et encore, les gens étouffent. En plus, bon, il n'y a pas seulement que ça, c'est les 35 heures, on leur a cassé, ils cassent tout, Sarkozy casse tout, c'est un bulldozer. Les gens, même qui ont voté pour lui, en ont plein de cul, c'est au secours. Donc, tout d'un coup, moi, je suis arrivé là-dedans, l'oxygène, l'anarchie, enfin, c'est une utopie auquel personne croit trop, mais dont on a vraiment besoin, quoi. Merde.
Alors, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale? C'est quoi la ligne éditoriale?
C'est contre tout. Non, pas contre tout. Non, c'est être politiquement incorrect de la page 1 à la page 16. Et puis, déboulonner les tabous, ne rien respecter.
Ne pas être politiquement correct, mais je vois quand même là-dedans des signatures de gens qui sont généralement très engagés politiquement. Si je prends mon copain Barchavski, c'est quand même un gars engagé.
Politiquement incorrect. Il est un Israélien contre Israël, ça ne court pas les rues. Hein. Il va nous raconter les refusniques, les gens qui refusent d'entrer dans le Tsahal, les gens qui font de la tôle pour pas tuer des petits-enfants. Mais ça, on n'en parle jamais de ces mecs-là. Là, on va en parler. Donc, c'est aussi un truc sérieux. C'est pas Harakiri, quoi.
Alors, je vois quand même des vieilles signatures. Sylvie Caster, par exemple. Ouais,
pourquoi vieille? Elle n'est pas vieille.
Non, mais elle n'est pas vieille, mais enfin, ça fait un bout de temps.
Bien roulé, là. Ah ouais, non, mais ouais, il y a des vieux de la vieille, bien sûr. Bah, Rasmus, il n'est pas tout jeune.
Non.
Et Michel Onfray, bon, on ne peut pas dire non plus que c'est un genou. Ouais. Lui, il est aussi ravi d'avoir un truc chaque semaine, quoi.
Je ne sais pas si Weinegem va tenir, mais c'est quand même une belle signature.
Non, mais lui, de toute façon, c'est pour me faire plaisir pour l'ouverture, mais il va pas. Ah ouais, non. Non, mais je suis en train de faire un bouquin avec lui, qui était déjà...
Ah bon?
Ouais, on fait un bouquin ensemble. On a déjà touché l'avance, mais comme il est souvent au bistrot et qu'il est un peu feignant, le bouquin traîne, mais on est en train de... On bosse ensemble depuis un an déjà. Donc là, il m'a dit, je t'envoie ça, mais c'est vraiment... pour te souhaiter la bienvenue, comme dit Bedos, lui il a fait un truc, mais c'est comme une lettre amitié, quoi.
Et Denis Robert, il va tenir?
Ça dépend de lui, mais comme il a l'impression qu'il manque d'humour, peut-être un peu, peut-être c'est moi qui vais pas accepter les trucs qu'il fait, quoi.
Ah, il faut être marrant quand même.
Tant qu'à faire, sinon on est chiant, quoi. On peut être intéressant sans être rigolo, absolument, mais j'ai peur que Denis Robert soit un peu sérieux pour la ligne, pour nous, mais on va voir.
Et c'est quand même, sans vouloir revenir sur l'histoire tout en y revenant, c'est quand même un peu la cause de toute cette affaire, Denis Robert.
Oui, absolument.
C'est ça l'histoire.
Mais c'est moi qui ai pris sa défense sans jamais l'avoir rencontré. C'est vraiment pas un copain. C'est un mec que j'estime, il a fait un bon boulot, Clearstream lui est tombé dessus, ils l'ont ruiné. Et tout d'un coup, je lis dans Charlie Hebdo, un journal auquel je collaborais, Philippe Val qui... Bon, je dois un euro, mais bon. Philippe Val qui le dégringole. Ouais. Qui le dégringole. Je dis, mais c'est quand même scandaleux, quoi. Je trouvais ça tellement dégueulasse que j'ai pris ma plume, mais bon. Et puis dans Charlie Hebdo, parce que c'est ça qui me faisait marrer, c'est de dire, je ne suis pas d'accord avec mon patron, entre guillemets. On ne tire pas sur un mec qui venait d'avouer lui-même dans Le Monde 15 jours plus tôt qu'il abandonnait tout, qu'il en avait marre, que les procès l'avaient. Donc du coup, ben, j'ai pris sa défense, ça a irrité bigrement Val qui n'a pas supporté. Et tout d'un coup, ils ont dit, comment peut-on faire chier s'il est le virer? Je veux virer ce mec qui me chie dans mes bottes depuis 15 ans, mais bon, plus précisément depuis 2 ans, parce que là,
oui,
je mettais
parce que
la
gomme. Ça fait un bout de temps que la castagne dure depuis longtemps.
Oui, mais ça plaisait au lecteur, ça, on disait, bon...
Mais oui, mais donc, il en profitait lui aussi. J'étais l'alibi de gauche de Charlie, quoi.
Ouais, ouais.
Et puis, il savait que s'il me virait, il allait perdre, disons, entre 10 et 20 000. Donc, il savait quand même que ça allait lui. Mais il ne s'attendait pas à ça, quoi. Je crois qu'il va déposer le bilan, quoi. On peut rêver, hein. Non, mais je crois qu'il est très mal barré. Nous, c'est par contre, on a des abonnements alors qu'on n'a même pas d'adresse pour s'abonner. Et il y en a un qui dit, ah putain, je veux le numéro 1. Ils sont tous fébriles, on a plein de chèques, c'est dingue. On a eu une boîte, on met tout dedans parce qu'on sait même pas, on n'a pas de compte en banque encore ouvert. C'est loufoque. Il y a les mecs qui font des dons aussi. Personne ne sait plus comment faire pour m'aider. Tiens, non, alors là, vraiment, on y croit. T'as du mal à y croire, mais moi, on est sciés, quoi. C'est ça, un ras-le-bol politique de Sarkozy. Hein.
Ouais.
Et Val, finalement, c'est la voix de Sarkozy. Enfin, BHL, tous ces cons qui... Toi, qui... Mais on en a plus que marre de ces gens-là.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que Val de la Charlie Hebdo. Il y a quand même toute une série de gens formidables.
Ah, ils sont sous leur lit, sous leur table. Ils se présentaient des choses à Sarkozy. Moi, j'ai éclaté de rire quand ils m'ont dit ça. Je croyais que c'était au deuxième degré, toi. Tu as présenté des excuses à Sarkozy, à la famille d'Arty. Tu dis, c'est ça. Et toi, t'as envie d'être grossier quand on te demande
mais,
ça. Quoi.
Mais vous étiez d'accord. Vous étiez d'accord pour reconnaître que si ça avait offensé...
Voilà, je m'excusais auprès des gens qui avaient pu mal comprendre. Mais je pensais qu'on en resterait là, alors que beaucoup de copains me disaient, t'es con, tu devrais filer ta démission. Finalement, je suis très heureux là, du dénuement. Et voilà, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça.
Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha cha. A la prieta hay que darle cariño, a la rubia tremendo apretón, y a la negra yo le doy un besito, pero todas gozan el vacilón, vacilón.
Les années 50.
Ouais. 52, j'ai commencé.
Je me souviens que vous étiez venu décorer l'école des arts appliqués.
Ah ouais, moi aussi, je me souviens de ça.
Moi, j'étais élève à l'école des arts appliqués. Ah ouais. Et vous aviez décoré un réfectoire, le réfectoire de l'école. Et c'était une grande bite qui faisait tout le tour du réfectoire. C'est grand réfectoire. Il y avait une paire de couilles qui commençait à gauche. Ça faisait tout le tour. Il y avait le gland qui finissait à droite de la porte. C'était
c'est facile,
ciné.
Hein. C'est facile. Non, mais je revendique. J'ai toujours été très, très pro-bite. très obsédé sexuellement. Et puis, moi, il y a des trucs qui m'amusent dans la vie, c'est de picoler, de déconner, de baiser. Enfin, bon, j'ai 80 piges, hein, donc. Mais j'ai pas besoin de Viagra.
Le début du dessin dans les années 50, des histoires comme ça, c'est pas la première, si?
Non, non, je me suis toujours frité avec plein de gens. J'étais viré d'Algérie alors que j'étais pro-algérien. J'étais viré de Chine. Alors j'ai dû faire mon autocritique en 65 parce que j'avais déconné sur Mao Tse-tung. J'ai été viré de Cuba. J'étais en résidence surveillée à Cuba pendant 3 semaines parce qu'on me reprochait d'être anarque. Quoi. Et c'est, l'anarchie, ça a du mal à passer. Et en plus, ça a beaucoup plus mal à passer dans les pays soi-disant de gauche, enfin communistes. À Cuba, pourtant, j'avais presque des frères, c'était plus que des copains, quoi. Ils pouvaient quand même pas me fusiller, quoi. Donc, ils m'ont lâché, mais...
Alors des anards, il y en a là-dedans. Il y en a un, par exemple. Vous m'avez dit au téléphone, il y en a un, c'est un professeur d'anarchie.
Normand Bayard.
Ouais.
C'est le traducteur de Chomsky. C'est un vrai anard, lui. Il se revendique anard, en plus. Parce que, bon, des anards, il y en a beaucoup, mais bon, lui, il est... sait de quoi il parle, quoi. Il a fait un bouquin magique là-dessus, dans Agon.
Il y a aussi Gérard Filoche.
Ouais.
C'est un socialiste, ça, il a le droit quand même d'écrire
là-dedans.
Non,
il est socialiste.
C'est un faux socialiste.
Pas de cœur, ouais. Ouais, c'est un faux
socialiste. Il y a quand même un retour, là, étonnant. C'est Delfeld de Ton. Est-ce qu'il va tenir aussi Delfeld de Ton, ou c'est pour le premier numéro?
Non, il raconte, lui, c'est intéressant, il raconte la vie de la naissance d'Harakiri Hebdo, Cavana, toute cette belle époque des trois portes. Et... Il dénonce en fait le fait que Charlie soit devenu chier, quoi, un truc mou, consensuel et tout. Parce qu'au départ, c'était vachement bien, hein, Cavana, Choron. Moi, j'y étais aussi, vraiment, c'était réserve, c'était magique, c'était vraiment un journal. Moi, je rêve de faire la même chose. Bon, bah, ils sont tous morts, mais avec des jeunes. Mais c'était là, il n'y avait aucun tabou, quoi. Simplement, maintenant, on est un peu plus à gauche qu'ils étaient. Ils n'étaient pas à gauche.
Ils n'étaient pas aussi à gauche que ça, hein.
Ben non, mais moi, je le suis, donc j'insuffle ma... Mais après tout, si un mec de droite qui a du talent vient, il est pas le bienvenu, mais...
Alors, vous avez un calendrier judiciaire, là. Vous allez au tribunal.
Ouais. Non, j'y vais pas. J'envoie un... J'ai pas bien compris, mais l'avocat m'a dit, c'est pas la peine que tu te déplaces. Et lui, il se déplace pas non plus. Il prend un représentant à Lyon qui va faire le nécessaire. C'est la LICRA qui me...
Ouais, je sais, c'est la LICRA qui vous poursuit. Mais ce que disent les avocats, enfin, ceux que j'ai pu contacter, c'est que la LICRA n'a aucune chance dans cette affaire.
Ah, absolument aucune, mais c'est ce que mon avocat me dit. Seulement, ça fait marcher les affaires. Ils me pressent tous du pognon. Lui aussi, moi, il me dit, tu vas gagner, mais tu m'envoies 5 000 euros de...
Et alors ça c'est les poursuites contre vous, et vous poursuivez Askolovitch.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que...
Il m'a traité d'antisémite, je ne supporte pas ça. Sur RTL, en direct, et merde. En plus, il a ajouté, pas connard, mais un truc comme ça, un peu gros.
Pas gentil, un truc pas gentil. Ouais.
Pour Denis Robert, je déclenche le truc, et tout d'un coup, ils ont trouvé 8 jours plus tard une phrase... qui soi-disant était antisémite, alors que j'accusais Jean Sarkozy d'être un arriviste et il paraît que c'est une fausse rumeur, mais enfin, c'est une rumeur, qu'il allait se convertir à la religion judaïque pour épouser une juive, un millionnaire. Et moi, je l'ai accusé d'être,
arriviste.
Oui, arriviste, c'est tout, mais juive ou pas. C'est ce que j'ai dit, il serait converti à la religion musulmane pour épouser la fille d'un émir, je serais tombé dessus pareil.
Oui, surtout que vous n'avez fait que recopier.
Exactement.
Les 4 lignes Patrick qui étaient dans l'IB.
Ouais, de la LICRA.
De Patrick Gobert. Ouais. Enfin, une interview. C'était un petit papier dans l'IB. Il faut rappeler le début de cette histoire. Ouais. Un petit papier dans l'IB signé de Christophe Ayad et je ne sais plus quel était l'autre journaliste, qui sont en reportage dans l'avion de Sarkozy pour Israël. Il rencontre Patrick Gobert, qui est le président de la LICRA, et qui leur dit ça. Enfin, il le note, en tout cas. Bon, c'est tout. Vous recopiez ça.
Lui, il ajoute juif, enfin.
Oui.
Non, parce que moi, ce qu'on me reproche, c'est d'avoir mis juif. Si j'avais dit.
C'est lui qui l'a dit.
Mais oui,
c'est lui. Enfin, c'est l'IBE qui l'a dit.
En plus, ça paraît logique de mettre juif. Comme si juif, c'était un gros mot maintenant. C'est ça qui est dingue. On peut plus prononcer ce mot-là sans être taxé de. C'est quand même fou, ça.
Enfin, c'est pas la première fois que vous allez dans les tribunaux, non?
Non, je crois qu'il y a fait. J'ai eu 30 ou entre 30 et 35. Hein. Ah oui, je suis rodé, moi.
Ouais. Alors, c'était quoi ces inculpations? La plupart, c'était les militaires, non?
Militaires, il y a eu De Gaulle, enfin, offense à chef d'État.
Ah,
hein, c'était Tantivonne qui déposait plainte. contre la police. Alors, il y avait diffamation des fois injures, ça dépendait de... Puis Roland Dumas, qui me défendait à l'époque, avec Alain Simon, il prenait rendez-vous pour jouer au tennis. Tu vois, la duplicité et la complicité de l'avocat et du juge. Mais bon, moi, je profitais de tout ça. Moi, je me suis jamais fait de soucis. Plus on m'inculpe, plus je suis heureux. Pour moi, c'est des médailles qu'on me file. Quand Christine Albanel a signé... Ah, moi, je suis vraiment flatté. Enfin, je préfère... Je suis dans le Petit Robert, dans Larousse. J'ai une médaille frappée à mon effigie par la Monnaie de Paris. Et maintenant, je me fais insulter par la ministre de Sarkozy. Encore. Quoi. Alors que Wolinski, il est très content d'avoir été décoré de la Légion d'honneur par Chirac. Quoi.
J'aurais pu être millionnaire avec piscine et vue sur la mer, mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Sentimentalement, démissionnaire, professionnellement, suicidaire. Tu vois, moi je suis dans la merde et je vous emmerde. Pour danser, mademoiselle.
Non mais ça va pas, non. Mais casse-toi là. Tu vois pas que tu m'importunes. On t'arrête, va.
J'aurais pu être votre amant.
Ouais.
Et caresser vos seins blancs. Mais je suis une merde et je vous emmerde.
Ouais, bah moi aussi je t'emmerde.
Moi je suis un poète et je vous emmerde.
Ouais. Si je lui dis ça, il risque d'avoir
fait
de rebondir.
Mais là, on déconne, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une tradition.
Comment ça, on déconne?
Non, oui. N'empêche que c'est vrai, il y a une tradition, la contestation, c'est une nécessité pour une société.
Absolument, enfin, d'abord pour moi, mais pour la société entière, c'est vrai. Moi, je m'imagine pas un jour être d'accord avec... Si, avec toi, ou avec... J'écoute la télé, j'ai envie de cogner, enfin, tu sais... Ça paraît sain, logique, ça m'empêche pas de me marrer, je vis pas dans un... Toi, dans un noir complet, mais je sais qu'il n'y a aucun espoir, par contre. Moi, ça fait quand même 60 ans de bons et loyaux services en dessin. Je n'ai pas fait avancer le public d'un poil de cul, ça m'énerve.
C'est-à-dire?
Bah, les gens sont aussi cons maintenant qu'ils l'étaient. Quoi.
Ah ouais, ça c'est...
Ils sont même encore, peut-être encore un peu plus cons. C'est-à-dire que je n'ai servi à bilan globalement négatif.
Ah, c'est sûr ça?
Ben oui, ça je suis sûr. Ah ben écoute, on était plus anard, enfin plus anard c'est beaucoup dire, mais plus libre avant que maintenant.
Voilà, on est avec Ciné dans la semaine prochaine, exactement mercredi 10 décembre, donc sort Ciné Hebdo, journal créé à la suite du conflit que vous connaissez et ben voilà au fait que Ciné a été viré de Charlie Hebdo. On a évoqué, si vous arrivez seulement maintenant, tout un tas de signatures d'auteurs, de journalistes et de dessinateurs qui participent à cette aventure et c'était hier la présentation du numéro 0 de cette aventure assez extraordinaire. Il est assez facile de trouver tout ça, d'avoir des nouvelles de cette aventure sur le net. C'est d'ailleurs l'internet est pour beaucoup dans cette histoire parce que c'est là que vous vous êtes exprimé, enfin que beaucoup de gens se sont exprimés pour la plus grande déconfiture évidemment de la presse écrite. On viendra sur tout ça. Pour l'instant, on reste avec l'horrible Ciné. Moi, je me souviens de tes dessins.
Ah, ouais.
Au moment de l'Algérie, tes dessins chez Maspero, enfin tout cet univers ciné Maspero. Il a signé, il t'a soutenu évidemment.
Ouais. Moi, je faisais pas que ça. Je portais les valoches et tout. Donc, je faisais des faux passeports, des trucs pour les. Non, mais moi, j'estimais que mes dessins c'était pas suffisant. J'avais envie de faire plus. Donc, je faisais passer les frontières à des mecs dans la bagnole. C'était... Et finalement, j'étais un peu couvert, justement, pour dire à les mecs, ah, les flics devaient se dire, tout ce qui gueule, il va pas encore faire des trucs. Et c'était un peu un paravent. Toi.
Je me souviens de Cinémassacre aussi. Ouais. Ça, c'était quoi l'histoire de Cinémassacre?
Ben, je suis parti de l'Express en 62, le 1er novembre, c'est la date de libération de l'Algérie. Je leur ai foutu ma démission dont je rêvais depuis des années. J'avais envie de leur claquer.
On a du mal à associer aujourd'hui Ciné et l'Express. Or, à l'époque, ouais, l'Express, c'était un journal anticolonialiste. Hein.
Absolument, oui. Ouais, avec Mendès France. Il y avait Mauriac. Mais ils dénonçaient la torture. Non, c'était bien, quoi. Donc moi, j'avais bossé pour eux, mais ça me faisait quand même un peu... J'en étais pas d'accord. Moi, je prônais la désertion. J'avais signé le manifeste des 121. Ils étaient pas du tout d'accord. Moi, je les trouvais trop français, quoi. Moi, je me sentais algérien. Enfin, mon cœur battait algérien. Pas musulman. Ne pas tout confondre. Ouais, donc j'ai claqué la porte et bon, bah, j'étais habitué pendant 4 ans à faire chaque semaine des dessins. Ça me manquait tout d'un coup. Et comme j'avais un petit peu de pognon, je me suis dit, je vais faire un petit journal. Et ben, j'ai réussi à bouffer toutes mes économies. Là, j'étais tout seul, non, personne ne me faisait chier. Et 9 numéros, 9 procès, non, et là, j'ai dû abdiquer. J'ai dit, bon, ouais.
En 68, t'as fait l'enrager.
Ouais. Ça. Là aussi, c'est ça.
Avec Dauvert qui était.
C'est lui qui. Ouais. Oh, ben, il faisait des chèques en bois, lui.
C'est ça.
Ouais. Mais il avait une femme.
Il avait un chéquier.
Ouais. Mais ça m'amuse, enfin, les mecs, Choron, c'est pareil. Moi, Choron, quand il me filait un chèque, quand par hasard il m'en filait un, j'ai vas-y vite, demain matin, parce qu'à midi, je suis pas sûr qu'il y ait encore du pognon. Par contre, Cavana, je sais pas si tu sais l'histoire qui lui arrive, il a bossé 20 ans avec Choron, quand il a demandé sa retraite, il a dit, quelle retraite, ouais. J'ai bossé où, pourquoi? Inconnu au bataillon.
Alors c'est pour ça qu'il était obligé de rester avec Val.
Il touche la retraite qu'on file au chaume 2, quoi. Ah, c'est vraiment un sale coup. Quoi. Donc le Cavana, il bosse pour notre ennemi commun. Et ce coup-là, ça lui est fatal un peu. Parce qu'il dit, il m'a chié sur mon fils, il m'a tué mon enfant. Sur Charlie Hebdo, il y tenait comme la
première. Cavana, Cavana dit, va chier sur mon enfant.
Non seulement il a chié, mais il l'a tué, quoi. Donc il pleure. Moi, ça me fait l'effet contraire. Moi, ça me fout un truc dans les robinets, hop.
L'estomac dans les talons, ils traînent les pattes comme des cons, ils peuvent pas danser la valse, ils sont pas assez vivaces. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 la danse qui fatigue pas trop. Bonne nuit les petits affamés. Le marchand de sable est passé. Ta main au petit déjeuner. Vous en aurez une poignée. Heureusement qu'il y a le tango. La danse qui fatigue pas trop. Tango, tango, tango. Tape-moi dans le dos que je fasse mon rôle. Dans cette ambiance squelettique, c'est nécessaire la musique pour que les tubes digestifs oublient le goût du rosbif. Heureusement qu'il y a le tango, la danse qui fatigue pas trop. Tango, 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 serre-moi pas trop, je sens tes os.
Georges Bernier, alias Choron, dans ses œuvres chantées. On est toujours avec Ciné. On est là à l'occasion de la sortie du numéro 0 du Ciné Hebdo qui sortira la semaine prochaine et qui sera donc, comme son nom l'indique, un hebdo autour de né de l'affaire Ciné avec comme devise ça va chier dans la colle et les bégonias.
Mon père était un art, moi j'étais un art, il était anti-syndicaliste primaire. Toi, on était un art. Et moi, j'aimais beaucoup mon père. Pour moi, c'était mon père, c'était Dieu. Enfin, Dieu, j'exagère. T'es un maître à penser, au moins. Tatoué, alcoolo, comme je les aime. Et je m'entendais tellement bien avec lui. Il paraît qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai une espèce de sosie maintenant. Plus vieilli, plus je ressemble.
Qu'est-ce qu'il faisait, ton père?
Ferronnier. Puis après, il bossait chez les patrons, mais il était à la forge, tu vois. Picolait comme un trou. Il avait fait du bagne à l'île de Ré en 14-18. Il est né en 1888. Et en 1908, donc il avait 20 ans, il a été envoyé à l'armée. Et avec un copain, un jour de beuverie, ils se sont cognés avec un sous-officier. Et finalement, il est mort, le mec. Donc ils ont pris chacun 50 bagnes pour homicide involontaire. Il s'est retrouvé à l'île de Ré avec la chaîne au pied. Et en 14, hop, il n'a pas fini ses 50 bagnes qu'ils l'ont envoyé au casse-pipe. Donc il en 1918, quand ils l'ont lâché, il était 75% mutilé. Lui, c'est la haine. Moi, c'est rien, je suis un rigolo. Lui, il voyait un militaire, il devenait tout rouge. Il voulait l'étrangler. Les flics, pareil. Enfin, c'était vraiment un rebelle. Et regardez, pendant ses 4 ans de bagne, il s'était fait tatouer par des potes. Alors, c'était les tatouages comme on les a plus pas maintenant. Des bites, des machins dégueulasses. Il avait des fausses chaussettes. Il a fait une fausse montre. Et puis dans le dos, il lui avait fait des gonzesses un peu... Puis lui, il n'avait pas vu ce qu'il lui avait fait. Des gonzesses un peu tonchinois, je ne sais pas pourquoi, c'était la mode.
Nous, on n'a pas parlé de jazz encore du tout, là. T'es un vieil amateur de jazz.
Ouais, ouais. Bah, ouais.
Et ça, tu continues, ça.
Ah ouais, ouais. Comme un fun. Hein. J'achète encore des disques chaque semaine.
T'as commencé quand à écouter du jazz?
À Libération, j'avais 15 ans, 14 ans, quoi. C'est les premiers V-disques. Moi, j'ai lu Pau, j'ai commencé comme ça. Lionel Hampton, Duke Ellington, Count Basie. Je faisais des échanges avec les Amerlocs noirs américains qui étaient à l'hôpital de la Riboisière. Ils étaient là pour se faire soigner. Moi, ma mère qui avait l'épicerie juste à côté. Alors, tous les soirs, j'allais voir les Ricains et je leur filais des sex appeals ou des trucs un peu cochons. En échange de disques, ils me filaient leurs V-disques. Et moi, j'essayais de parler anglais à l'époque. Donc,
et c'était quoi les V-disques?
Les disques étaient souples, ils touchaient ça en plus de leur ration. Il y avait des préservatifs, de la bouffe et puis des V-disques. Et c'était, il y avait Glenn Miller qui n'était pas terrible, enfin bon. Mais il y avait Woody Herman, il y avait pas mal d'orchestres blancs. Mais tu avais aussi Lionel Hampton, Count Basie, Duke, Armstrong. Il y avait déjà le JATP qui existait de Norman Granz. J'ai plus arrêté. Puis en plus, je notais le nom. Tu peux me demander le nom des musiciens, qui est à la guitare, dans quel disque, dans quelle année. Ah non, je suis un puits de science. Moi, je rêvais d'être noir d'abord, et puis de parler à Jive. Toi, merde. Moi, j'étais.
Et ton musicien, ton disque préféré?
Moi, j'adore Monk.
Et Ornette Coleman, alors, qui vient foutre le bordel?
Ornette Coleman, ah ben ouais, mais moi, j'aimais ça parce que c'était un provocateur. Quoi. Mais en fait, il me faisait un peu chier. Mais pour faire chier les gens, je faisais semblant d'adorer le free jazz, Archie Shepp. Honnêtement, moi, je revenais, j'écoutais Duke Ellington pour me... C'était de la provoque, tu vois. Donc, moi, je suis pour, mais au point de vue musical, je préfère les mecs plus cool. Hein. Quoi, je préfère le bon middle jazz, Lester Young, pour moi. Lester Young, c'est mon musicien préféré. Mais c'est Billie Holiday quand elle chante « Je chiale ». Et tu mets « Gloomy Sunday », ça fout la gueule.
Sunday is gloomy, my hours are slumberless, dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. shadows I spend it all. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday.
Alors évidemment, après ça, Gloomy Sunday, Billy Holiday. Évidemment, Ciné va pas faire tout ça tout seul. On l'a dit, il y a du monde et il y a beaucoup de monde. Et dans ce monde-là, il y a un dessinateur que j'aime moi particulièrement qui s'appelle Lou. Et puis, il y a quelqu'un aussi, alors on parlait de Free Jazz, qui d'autrefois, dans Charlie Hebdo, faisait des papiers sur le Free Jazz et qui a fait aimer, si on peut dire, cette musique à pas mal de monde, c'est Delphine de Ton. Et il a raconté beaucoup de choses sur tout ça récemment, Delphine de Ton. Donc voilà, encore un petit moment avec Lou, puis Delphine. Lou, oui. Alors toi, tu rentres dans cette équipe. Tu te
compromets. Non, je ne rentre pas dans cette équipe. Ciné m'appelle. Tu sais, la définition d'un ami, il te dit, je viens de tuer quelqu'un, tu te demandes où est le mort. Tu ne demandes pas pourquoi, ni qui c'est, ni où. Voilà, c'est tout. Ciné me dit, bon, je fais un canard, tu viens. Je dis, mais c'est même pas la peine de me demander.
Alors, est-ce que tu fais ça contre Charlie ou tu t'en fous de l'histoire
non,
de Charlie?
Non, Charlie, j'en ai rien à foutre. Ça a toujours été une secte pour moi. J'ai jamais pu entrer parce qu'il fallait montrer patte blanche. Moi, j'ai quitté les francs-maçons, donc je vois pas pourquoi je rentrerais à Charlie. Non, c'est pour les mêmes raisons. Même s'il y avait une carte d'anarchiste, je pourrais pas la prendre. Je préfère l'être de façon normale et instinctive.
C'est marrant, j'en entends beaucoup le mot anarchie. Là, c'est un canard anarchiste?
C'est un canard libertaire, en tout cas. C'est un canard qui n'a pas de... qui n'a pas de limite et qui n'a surtout pas de morale. Il n'y a pas de pire mot que la morale. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme Desproges. Je serai militant de SOS Racisme quand racisme aura un S de pluriel. Parce que là, actuellement, aussi bien la LICRA que SOS Racisme, c'est toujours dirigé contre les antisémites. Et le devoir de mémoire commence à me gonfler. Je suis juif et je n'ai rien à foutre que les gens puissent me taxer d'antisionisme. Je veux dire, c'est tout à fait normal qu'on le soit. Quand on voit que l'État d'Israël a été dévoyé de ses premières origines et de ces décisions qui ont été prises pour le fonder. Comment peut-on tolérer que l'extrême droite juive existe? C'est une question toute bête. Moi, j'aimerais que quelqu'un puisse me répondre. À partir du moment où on a beaucoup souffert, on a le droit de faire chier le monde. Non, je ne suis pas d'accord. C'est tout.
Donc, toutes les semaines, on te retrouve dans Ciné Hebdo.
Ah, ben oui.
C'est formidable ce que fait Ciné à 91 ans. Il a un exemple pour toutes les maisons de retraite.
Voilà, pour les jeunes. En plus, c'est écrit gros. C'est écrit gros.
Dis donc, alors, mais t'es sorti du bois, toi. T'étais bien planqué au Nouvel
Obs. Bien planqué à l'Obs, oui.
Hein, avec ton petit chronique, là.
Oui, j'étais tranquille.
Et tout d'un coup, toc.
La dégueulasserie. Non, c'était immonde ce qu'on lui faisait, quoi. On sort d'abord une accusation fausse, on la sort dans l'Obs. Avec Askolovitch, là, parce que c'est son article dans l'Obs.
Et il est parti. Il
juste avant de partir. Aussitôt après, c'était la prime pour la promotion, quoi, tu vois. Et Askolovitch, j'en ai rien à foutre, que c'est Ciné. Bon. Et alors donc, ce mec, on lui accroche la pancarte la plus infamante qu'il puisse avoir. On veut le tuer socialement, moralement, professionnellement, etc. On est des humoristes, on est 150 les humoristes, quoi, tu vois. Lui, on est un. Bon, si on se défend pas, alors qui va nous défendre, hein, bon. Et donc, j'ai foncé, quoi. Comme on a vu les autres, qui criait c'est épouvantable, on assassine Philippe Val, etc. C'était lui qui assassinait, tu vois. Parce que toujours, il retourne la chose, c'est Val le persécuté. Alors tu vois Elie Wiesel qui sort de lui aussi, il sort du bois là, à 90 ans. On va le rameuter, il sait pas qui est Ciné, il sait pas qui est Charlie Hebdo, il sait rien, mais il signe quand même un texte dégueulasse où Ciné est traité dans la merde, dont ça paraît dans le monde. Alors on fonce.
Oui, mais alors tu fonces, mais tu racontes toute l'histoire du coup, tu déballes.
Moi, j'avais l'intention de mourir avec mon secret, entre guillemets. comment dire, je disais rien, ça faisait 16 ans que je disais rien, j'avais aucune raison de parler, quoi. T'avais Volin qui était content, GB était content, Cabana était content, bon, Willem était content. Soyez contents, les gars, bon. Donc, je ne dis rien. Mais quand sort ce truc-là, ça vient de partout. Comment ça se fait que ce Val est patron de Charlie Hebdo? Alors j'explique. J'attaque pas Val, j'explique comment ça se passe.
Tu crois que Charlie Hebdo va pouvoir continuer ou...
Je m'en fous. De toute façon, je sais qu'ils s'engueulent. Je sais qu'ils sont... c'est un journal où ils se détestent tous. Ouais. Ils détestent tous Val. Et puis, ça commence à tirer dans tous les coins. C'est un journal qui est comme ça, qui est branlant. Hein. Mais c'était bien monté, le coup, parce que c'était bordé de partout. Toute la presse était comment dire... T'avais Libé avec Geoffrin, t'avais L'Obs avec Askolovitch, t'avais Le Monde avec BHL. T'avais quand même... Tout était bordé partout. Hein. Et puis, manque de peau, il y a Internet. Et à Internet, c'est les gens qui parlent. Et puis, les gens, ils ont tous dit la même chose.
Voilà, merci à tous. Vous pensez bien qu'on ne laissera pas cette affaire comme ça. On va y revenir. Donc la semaine prochaine, le mercredi 10 septembre, sortira Signe Hebdo. Merci à tous. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Julien Dumont. C'est Coyenne Guyenne et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission modeste et géniale assistée de Charlotte Perry. Le répondeur, c'est Agnès Lebot qui s'en occupe désormais. Et le numéro du répondeur de la base, j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.